France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel et rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Au septième jour du conflit entre Israël et l'Iran, les deux ennemis multiplient les frappes. On se rendra sur les lieux d'un hôpital visé par la République islamique dans le sud de l'État hébreu. De son côté, Donald Trump n'exclut pas une entrée en guerre de son pays. Y a-t-il vraiment intérêt? On posera la question à notre invité. On s'interrogera également sur la signature d'un possible accord de paix entre la RDC et le Rwanda voisin. L'actualité en France est notamment ce long cheminement législatif sur le point d'aboutir à une nouvelle définition pénale du viol pour y intégrer la notion de non-consentement. Enfin, on verra comment la généalogie génétique peut permettre aujourd'hui de résoudre certaines affaires criminelles non résolues. Mais commençons tout d'abord avec ce jour possiblement historique dans la lutte contre le VIH après que les États-Unis ont approuvé un nouveau traitement préventif contre le virus du sida. Voilà que ce feu vert pourrait désormais révolutionner la lutte contre cette épidémie, même si la question de son accessibilité reste entière. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
En quoi consiste donc ce nouveau traitement prévenant la transmission de la maladie ?
D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas un vaccin et qu'il est connu depuis 2022. Mais jusqu'à présent, c'était un traitement combiné à une autre molécule et réservé aux personnes déjà infectées par le VIH qui était devenu multirésistante. À présent, le lenacapavir, on va l'appeler le lena, c'est quand même plus facile, le lena va être autorisé seul, en prévention, si on souhaite se protéger du virus. Et ce qui est révolutionnaire, c'est qu'il marche à 100%. Purpose One, c'est le premier essai clinique conduit en Afrique du Sud et Ouganda sur des jeunes filles hétérosexuelles. Parmi les 2134 volontaires qui ont pris le LENA, aucune infection n'a été déclarée. Simplement, zero transmission, a dit la docteure Linda Gail Becker au congrès de Munich, c'était à la fin de l'année dernière. Et depuis, un autre essai, Purpose 2, a été dévoilé. Il concernait des personnes gays, transgenres, bisexuelles, ayant des rapports avec des hommes, dans 7 pays. Même chose, 99,9% d'efficacité. Alors comment ça marche? Je vous disais, ce n'est pas un vaccin, ça ne stimule pas le système immunitaire de la personne, mais ça agit sur le virus. Dans le VIH, il y a une capside qui contient le matériel génétique du virus, donc l'ARN, et des enzymes qui permettent au VIH de se répliquer quand il a infecté une cellule hôte. Eh bien, le LENA va déstabiliser cette capside et même si la cellule saine est infectée, eh bien le virus n'arrive plus à se multiplier. C'est tellement efficace que seules 2 injections par an suffisent.
Merci Tara Schlegel. Peut-être ou peut-être pas, Donald Trump n'a pas encore pris sa décision quant à une implication directe des États-Unis dans la guerre entre Israël et l'Iran. Toute la journée d'hier, le président américain a de nouveau cultivé l'ambiguïté au rythme de multiples déclarations, toutes plus énigmatiques les unes que les autres. Cherche-t-il à gagner du temps ou à mettre la pression sur la République islamique pour qu'elle revienne à la table des négociations, ou peut-être ignore-t-il réellement ce qu'il va faire? Seule certitude, ce suspense vient d'abord et surtout exposer au grand jour les divisions au sein de son propre camp. Entre d'un côté les faucons conservateurs qui plaident pour une implication immédiate dans le conflit, puis de l'autre les isolationnistes du mouvement MAGA, Make America Great Again, qui s'y refusent. On va y revenir dans un instant avec notre invité. Mais tout d'abord, s'agissant des derniers affrontements, ce matin, l'armée israélienne a dit avoir mené plusieurs frappes, en particulier sur la capitale Téhéran. Elle a par ailleurs annoncé avoir détruit dans la nuit 2 bâtiments de production de centrifugeuses. De son côté, l'Iran a tiré ce matin une nouvelle salve de missiles sur l'État hébreu. 2 violentes explosions ont notamment été entendues à Jérusalem et Tel Aviv, et puis surtout dans le sud du pays, un hôpital abritant des soldats blessés dans la bande de Gaza a été touché par une frappe. Les secours font état d'au moins 47 blessés. Il y a eu d'importants dégâts. Ce matin, une colonne de fumée s'échappait toujours de l'hôpital Soroka à Beersheba, où vous vous trouvez, Farida Noir. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation sur place, Farida?
Eh bien, écoutez, je me trouve en ce moment devant les urgences pédiatriques d'où sortent des patients de l'hôpital Soroka, des patients qui vont être mis en sécurité, qui sont pris en charge par l'armée, par du personnel hospitalier, par le Magen David Adom, c'est la Croix-Rouge locale. Des personnes sont en chaise roulante, il y en a sur des brancards qui vont donc être évacués pour être dispersés dans d'autres hôpitaux du pays, soit en ambulance. Et pour les plus valides, il y a 2 bus qui sont stationnés à quelques mètres de moi pour les transporter. Derrière le bâtiment où je me trouve, Il y a des débris de verre au sol. Sur le côté, une sorte de tour est noircie. L'hôpital nous indique qu'il y a plusieurs blessés légers, donc qui sont actuellement soignés aux urgences. L'hôpital qui précise aussi que l'étage du service chirurgie, qui a aussi été impacté, avait été évacué la veille, ce qui a sûrement évité le pire. Alors cette frappe, elle a eu lieu tôt ce matin vers 7h. Iris travaille à la maternité de l'hôpital et elle nous raconte encore sidérée ce qui s'est passé ce matin. Je suis arrivée à 6h53, nous dit Iris. Et je devais commencer mon service et puis on a reçu l'alerte sur le téléphone. On s'est ensuite dirigé vers l'abri et puis on a entendu un boom terrible. Le plafond au-dessus de nous s'est effondré et une femme a été blessée. C'était vraiment horrible, ça fait très peur. Et on n'aurait jamais pensé que ça puisse arriver ici. C'est encore très dangereux, faites attention. Il y a beaucoup de vitres qui ont explosé et du verre peut encore tomber. Ça fait peur, nous dit-elle. Ça fait vraiment très peur. Iris qui a décidé de rester jusqu'au bout de son service pour aider cet après-midi.
Merci Farida Noir ainsi qu'à Eric Audra pour les moyens techniques. Alors Donald Trump va-t-il intervenir dans cette guerre? La question reste posée encore aujourd'hui, une équation qui semble d'autant plus insoluble que les partisans du milliardaire républicain s'affrontent désormais sur deux promesses de campagne contradictoires: éviter les guerres à l'étranger d'une part et puis empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire d'autre part. Et pour en parler avec nous, invité à présent de la rédaction, Rim Montaz, chercheuse en géopolitique au sein du think tank Carnegie Europe. Bonjour madame.
Bonjour.
Peut-être avant d'en venir à ce dilemme donc de Donald Trump et aux conditions dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les États-Unis, remontons, si vous le voulez bien, quelques jours en arrière. Diriez-vous qu'en déclenchant une guerre ouverte avec l'Iran, Benjamin Netanyahou a pris le pari d'entraîner avec lui son allié américain?
Oui, ça semble maintenant très clair que le pari d'essayer d'imposer cette guerre et donc d'entraîner les Américains dans cette guerre faisait partie la stratégie du gouvernement israélien, parce que quand on regarde d'un côté les discussions qui ont lieu entre le premier ministre israélien Netanyahou et le président américain Donald Trump depuis des mois, on voit très bien qu'ils ont une différence d'opinion sur ce qu'il faut faire. Donc depuis des mois, le président américain veut privilégier la route diplomatique et donc il a engagé ses négociations avec l'Iran, qui en était alors sixième rendez-vous avant que Netanyahou lance cette guerre. Et Netanyahou, depuis des mois, essaye de convaincre Trump que la négociation ne sert à rien. L'autre point, c'est que quand on regarde la stratégie israélienne, ils ont été très efficaces dans le début de ces opérations et de cette attaque contre le régime et le système iranien. Par contre, forcément, c'est de constater qu'ils n'ont pas de stratégie ni de tactique pour pouvoir mener à bout leur opération sans une intervention qui serait décisive des Américains. Donc depuis le début, dans la conception de leurs opérations, ils ont pris en compte qu'ils auraient besoin d'impliquer les Américains pour pouvoir mener à bout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, comme l'a dit le Premier ministre Netanyahou, ils envisagent, ils essayent, leur objectif c'est d'éliminer le programme iranien nucléaire et seuls les Américains peuvent porter un coup fatal ou aussi fatal que possible.
S'agissant de ces hésitations donc de Donald Trump que j'évoquais tout à l'heure, faut-il y voir les tergiversations d'un individu qui n'aime rien tant au fond qu'être au centre de l'attention, ou bien le signe d'un véritable affrontement entre les différentes tendances dans son entourage?
J'ai envie de vous dire, c'est les deux. D'un côté, on voit la psychologie du président américain qui a toujours besoin d'être au centre de l'action et de l'actualité la plus brûlante. Et surtout, il aime être du côté des gagnants, comme lui le dit. Donc au début, on a vu une réaction qui était une réaction en fait très honnête et authentique de la part de la Maison-Blanche. Quelques heures après le début de l'opération et de l'attaque israélienne contre l'Iran, il y a eu une déclaration de la part du conseiller pour la sécurité nationale, qui est aussi le ministre des Affaires étrangères américain Marco Rubio, qui a été relayé par le compte de la Maison-Blanche. Donc il parlait pour la Maison-Blanche, où il disait « c'est une opération unilatérale israélienne ». 24 heures plus tard, on a commencé à avoir des déclarations de la part du président américain qui se chauffait, qui s'excitait de plus en plus à voir l'efficacité de l'opération militaire et de l'attaque israélienne contre l'Iran. Et 5-6 jours plus tard, force est de constater qu'il utilise le pronom « on » pour parler du contrôle, par exemple, du ciel iranien. Donc il dit « nous contrôlons ». Le ciel iranien, alors que ce sont les Israéliens qui contrôlent le ciel iranien, mais manifestement les Américains sont en train de soutenir avec leur renseignement l'opération et l'attaque israélienne. De l'autre côté, il y a clairement un affrontement très très brutal à l'intérieur de la coalition qui a en fait aidé Trump à être réélu. Comme vous l'avez dit en introduction, il y a les néoconservateurs qui existent dans le camp républicain et qui pensent réellement que des interventions militaires aussi mal pensées que celles-ci pourraient réellement changer la donne, sauf qu'ils n'ont aucun plan pour le jour d'après. Donc ils pensent qu'on peut détruire un régime que d'ailleurs personne ne regrettera. Enfin, il faut être clair, c'est un régime qui est agressif, qui a oppressé sa propre population, qui a aussi ensanglanté toute la région, l'Irak, le Liban, la Syrie, pendant des années, pour ne pas parler aussi des menaces à l'encontre d'Israël depuis des décennies. Par contre, faire une sorte de changement de régime de l'extérieur sans avoir un plan de stabilisation est très problématique pour toute la région. On le voit d'ailleurs dans la position des Arabes. Et de l'autre côté, on a, comme vous l'avez bien défini, les isolationnistes de MAGA, Make America Great Again, qui pensent réellement qu'il faut arrêter les opérations extérieures américaines qui s'immiscent et interfèrent dans les autres pays, surtout sans plan, et qui entraînent en fait un engagement de plus en plus important militaire avec des jeunes Américains qui vont mourir, on ne sait pourquoi.
C'est bien compris. Merci Rima Mtaz, chercheuse donc en géopolitique au sein du think tank Carnegie Europe, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Les tueries qui accompagnent la distribution d'aide humanitaire dans la bande de Gaza se poursuivent.
Selon la défense civile, 18 personnes ont été tuées ce matin par l'armée israélienne. Hier déjà, 39 personnes avaient trouvé la mort dans des frappes sur le territoire palestinien, ravagé et affamé par plus de 20 mois de guerre. Son patronyme est indissociable des tensions qui divisent le royaume depuis maintenant plus de deux décennies entre des élites conservatrices, militaro-royalistes d'un côté, puis des électeurs avides de changement de l'autre. Ce matin, la première ministre thaïlandaise, Shinawatra, au centre d'une crise gouvernementale sur fond de gestion des tensions à la frontière avec le Cambodge, a présenté ses excuses. Reste à savoir si l'héritière de la dynastie politique la plus puissante du pays réussira malgré tout à conserver son poste face aux appels à la démission de plus en plus nombreux.
Le texte doit encore être formellement signé la semaine prochaine, mais il pourrait mettre fin à plus de 30 années de guerre.
À l'issue de 3 jours de négociations à Washington, un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été paraffé hier. Il prévoit des dispositions sur l'arrêt des hostilités, le respect de l'intégralité territoriale dans l'est de la RDC, de même que le désarmement des groupes armés non étatiques. Et quand bien même toutes les trêves signées jusqu'à présent ont toutes été violées par les parties en conflit, ce texte, Nathanaël Charbonnier, fait figure de lueur d'espoir dans cette région historiquement marquée par les pires atrocités.
Ce conflit est en effet la suite de ce qui s'est passé au Rwanda il y a plus de 30 ans avec le génocide des Tutsis par les Hutus. On parle de près d'un million de morts en l'espace de 3 mois seulement. Si le calme a pu revenir à l'époque au Rwanda, c'est parce qu'une partie des protagonistes est allée se réfugier au Congo voisin, entraînant la déstabilisation de toute la région du lac Kivu qui se trouve de l'autre côté de la frontière. L'accord prévoit donc toute une série de mesures qui visent à rassurer les Rwandais et leurs alliés du M23 basés en RDC. Il est question de désengagement, de désarmement des différents groupes armés qui se battaient. Il est aussi question d'économie, car la région est connue pour être riche en ressources naturelles. Autant dire que l'accord qui sera signé la semaine prochaine est important, même s'il faut rester prudent et rappeler que depuis 2021, les acteurs locaux ont déjà annoncé une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves et que tous ont volé en éclats.
C'est désormais une certitude.
Même si le constat avait déjà été dressé de façon isolée pour la première fois, une vaste étude mondiale menée par une soixantaine de scientifiques de 17 pays issus des institutions les plus prestigieuses l'affirme. L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle fixé lors de l'accord de Paris sur le climat il y a 10 ans n'est désormais plus atteignable. Gaz à effet de serre, élévation du niveau de la mer, au total une dizaine d'indicateurs climatiques clés sont dans le rouge.
Midi passé de 45 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Quelques mois après le retentissant procès dit des viols de Mazan, durant lesquels le consentement avait pris une place centrale, le Sénat a approuvé hier une modification de la définition pénale du viol pour y intégrer la notion de non-consentement, un dossier qui aura longtemps suscité des hésitations auprès des parlements comme des associations de défense des droits des femmes. La réforme avait déjà été adoptée à l'Assemblée début avril. Le cheminement législatif du texte n'a donc jamais semblé aussi proche d'aboutir. Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour Thomas.
La proposition de loi devra toutefois encore être adoptée par le Parlement dans une version définitive. Avec quelle chance de réussite, Mathilde ?
Eh bien, de bonnes chances, estime Marie-Charlotte Garin, députée écologiste à l'origine du texte. Hier, il a été adopté au Sénat avec 323 voix pour, 0 contre.
Il y a un an, on n'aurait pas imaginé une telle unanimité sur ce texte. Bien évidemment, il nous reste la commission mixte paritaire, mais une très belle étape a été franchie hier soir.
Les quelques abstentions, 18 au total, viennent essentiellement des rangs des communistes, avec toujours cette crainte d'une inversion de la charge de la preuve qui avait animé les débats à l'Assemblée. Certains élus, comme la sénatrice communiste Silvana Silvani, estiment qu'intégrer le non-consentement dans la définition pénale du viol obligerait les plaignantes à prouver qu'elles ne voulaient pas.
Le violeur, lui, dira toujours « mais je ne savais pas qu'elle ne voulait pas ». Or, il va falloir obtenir la preuve du non-consentement. On va être obligé de se tourner vers la victime. Personne n'a été capable de dire hier soir, par exemple, de quelle façon ça pouvait se passer.
Une crainte légitime, répond Marie-Charlotte Garin. Cependant, le Conseil constitutionnel est passé par là et a assuré début mars que le texte ne créait pas de preuves impossibles.
Nous, on a travaillé sur un texte qui respecte les grands principes de notre droit. Donc non, il n'y a pas d'inversion de la charge de la preuve. Non, on ne touche pas à la présomption d'innocence. Simplement, on vient donner des boussoles et des clés au juge pour qu'il puisse mieux appréhender la notion de consentement.
Le Sénat a simplement adopté quelques changements sémantiques. Il sera question de contexte plutôt que de circonstances environnantes. D'où la convocation d'une commission mixte paritaire dans les semaines à venir pour aboutir à un compromis et enfin adopter ce texte.
Merci Mathilde Cariou.
C'était le 27 juin 1987. Sabine Dumont, 8 ans, était enlevée à Bièvre dans l'Essonne.
Le lendemain, le corps de la petite fille sera retrouvé sur la scène du crime, étranglé, violé, tué. Et depuis, son meurtrier n'a jamais été retrouvé. Julie Pietri, bonjour.
Bonjour.
Vous nous révélez aujourd'hui qu'après 38 années de recherche infructueuse, une nouvelle technique encore rarissime en France est utilisée en ce moment même qui pourrait permettre d'identifier enfin l'assassin. Son nom, la généalogie génétique. Alors il faut préciser tout d'abord que l'agresseur avait bien laissé des traces ADN sur les vêtements de la fillette, mais sans que cela ne permette, Julie, pour autant de retrouver l'auteur des faits.
Non, d'où la piste généalogie génétique, une technique pas légale en France, mais aux résultats spectaculaires aux États-Unis. L'idée, ce n'est plus de chercher directement le meurtrier de Sabine Dumont, mais sa famille, ses cousins éloignés qui partagent une partie de son ADN pour ensuite remonter jusqu'à lui. Il y a 2 ans, une juge du pôle Cold Case de Nanterre demande donc l'aide américaine. Geneviève Dumont, la mère de Sabine.
C'est complètement révolutionnaire. Je sais que quand on a commencé à parler de cette technologie, on nous avait bien précisé de ne pas trop l'ébruiter, parce qu'on ne savait pas si c'était vraiment légal en France et si vraiment il y avait une autorisation.
Et si la famille prend la parole aujourd'hui, Julie, c'est donc justement parce que ce dossier est bloqué.
Pour des raisons administratives obscures, précise l'avocate de la famille, Marine Alali.
Ce qui est frustrant, c'est de savoir qu'une technologie existe qui permettrait très certainement de résoudre ce dossier dans des délais raisonnables et qu'en fait ça bloque pour des raisons qui nous échappent. Et ça, c'est pas audible pour une famille qui attend aujourd'hui depuis 38 ans.
Le ministère de la Justice doit intervenir, dit-elle. Qui est le meurtrier de Sabine ? Le découvrir permettra-t-il aussi de résoudre d'autres crimes ? Car à la même époque, trois autres petites filles ont été enlevées et tuées en région parisienne.
Merci Julie Pietri de la cellule Investigation et je précise que l'intégralité de votre enquête est en écoute sur l'application Radio France. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur les trois quarts du pays. Seuls quelques nuages pourront continuer à bourgeonner sur les Alpes. Quant aux températures, elles seront comprises entre 23 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia et à 18h, vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.